9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bien le bonjour mes amis, Maître Serran vous salue en ce vendredi 1er février. Vous m'avez manqué, mon cher Philippe, votre gentillesse, votre compassion à mon égard m'ont manqué. Ben oui, expliquons à nos auditeurs pourquoi Maître Serran n'était pas en direct la semaine dernière.
Vous voulez qu'on en parle ?
La semaine dernière, ouais. Alors, on va en parler, moi ouais. Je suis complètement ouais. Transparent. La ouais. Semaine dernière, ouais. Je me suis fait arracher une dent dite de sagesse. Alors tu sais, ces dents qui ne servent strictement à rien et qui t'emmerdent la vie. Après une bataille acharnée entre mon dentiste et ma dent a été vaincue. Je suis donc reparti avec une dentition incomplète. Et une fois l'anesthésie dissipée, douleur, violente douleur durant toute la nuit. Mais c'est pas grave, Maître Serran est un guerrier. Vous savez mon cher Philippe, quand je pense que c'est l'une des seules nuits où j'ai pas fait l'amour à ma femme. Hein. À cause de cette douleur.
Alors, j'ai pas vu arriver. Alors, franchement, je suis désolé.
Le guerrier a également une fièvre de cheval toute la nuit. Maître Serran est-il faible? Telle est la question que je me suis posée. J'ai tenté de me ressaisir et je me suis dit, mais Maître Serran, tu ne peux pas plier face à la douleur. Ouais, sauf que le lendemain, 6 heures, devant le miroir de la salle de bain. D'ailleurs, à un moment, j'ai même eu un doute. Je me suis dit, je dors encore et je fais un cauchemar, c'est pas possible. Et non, frère, pas un cauchemar. Maître Serran s'est levé avec une joue aussi grosse que la fesse droite de Vanessa, que je salue par ailleurs.
Ah en non, même temps, ça c'est pas possible.
Non mais en même temps, si j'avais dit la fesse droite d'Abdel Ali, hein, c'est un peu moins glamour. Alors c'est simple, j'ai regardé mon profil gauche, ok, je me suis reconnu, c'est bien Maître Serran, mais du côté droit, et je ressemblais à Jean-Vincent Placé. Vous connaissez Jean-Vincent Placé? J'avais une tête
non,
de fou.
On a oublié.
Non, une tête de fougou, je te dis. Et là j'ai été envahi par une tristesse infinie, car Maître Serran, ah, sachez-le, hein, depuis sa naissance, toujours été beau gosse. C'est ma mère qui me l'a dit. Et là, me voir comme ça, ça m'a fait mal, mon cher Philippe. Alors, nous nous sommes ensuite téléphonés, Philippe, et je vous ai dit, Philippe, je ne pourrais pas venir à la radio vendredi, because je suis difforme. Et dans votre grande gentillesse, vous m'avez répondu, mais non, médecin, hey, on fait de la radio, personne va te voir. Ah ouais, on fait de la radio, comme si je ne le savais pas. En fait, t'as vraiment l'impression que j'avais envie de rire avec une joue aussi grosse que le ventre d'Abdel Ali Mahmoud. Alors ça, j'étais obligé de la coller, celle-ci, mon cher Philippe, car hier, j'ai pas eu le plaisir d'écouter votre émission avec Abdel Ali Mahmoud, mais j'ai
oui,
quelqu'un, dire. Voilà, quelqu'un, j'ai une source qui m'a précisé que notre imam se serait autorisé à faire une allusion à ma chevelure de feu. Voilà, donc sachez que j'ai des espions partout, même quand je n'écoute pas, voilà, on me rapporte les propos. Abdel Ali que j'embrasse. Et donc, considérant que le ridicule tue, j'ai été obligé de renoncer à une émission en direct pour éviter de donner une image de moi qui n'était, et je vous demande de me croire absolument pas à mon avantage. Bien, maintenant l'explication est donnée, je vais vous donner, mes camarades auditeurs, vous invitez, pardon, à me contacter au 01 53 48 3000 pour poser vos questions et missions sous le contrôle de celui qui n'a aucune pitié avec ses chroniqueurs, monsieur Philippe Robichon, Beurre FM, c'est tout droit, c'est parti.
Oui, et j'ai même dit, venez avec une cagoule.
C'est vrai.
J'ai dit,
c'est vrai,
venez avec une cagoule noire, on y verra que du feu.
On y verra que du feu, ouais.
Mais ouais, attendez. Mais
ça fait une tête qui ressemble à rien. En gros, j'étais comme ça. Là, bon, là, on est à la radio. Regardez-moi.
Ah ouais,
ça ressemble à quoi là?
Au chef voilà quand il était chez le dentiste. Ça, je vous avais dit de pas aller chez le dentiste du chef voilà.
Ouais, mais chef voilà était en Turquie, je crois, chez le dentiste. Enfin, il me semble.
Je vous avais dit de pas le fréquenter, ce dentiste là. Bien, vous êtes là et comme vous êtes d'humeur badine, maître Serran, eh bien aujourd'hui vous avez décidé de traiter d'un sujet relatif à la mort et plus précisément de l'exécution des dernières volontés, qui est à l'origine de nombreux conflits familiaux. Et parmi toutes les questions auxquelles on doit répondre, savoir si on doit être enterré ou incinéré, le type de cérémonie et l'endroit où sera enterré le défunt. Alors, que dit la loi sur la personne qui doit répondre à ces questions?
Alors, idéalement, il n'y a pas mieux que de laisser un petit testament, un petit courrier pour dire, voilà, si demain il devait m'arriver quelque chose, j'aimerais que ça se passe de telle ou telle manière. Donc là, on est dans le meilleur des mondes. Je dois reconnaître qu'effectivement, c'est pas forcément le sujet le plus affriolant qui peut vous insister à vous pencher là-dessus, mais idéalement, ce serait ça. Sauf que...
Sous quelle forme? Parce qu'un testament, c'est pas ouvert le jour de votre mort.
Non, mais vous pouvez, encore une fois, en règle générale, alors d'abord, quand je dis testament, je parle pas du testament, comme vous dites, ouvert le jour de votre mort devant notaire, mais on peut avoir des quelques préférences, en tout cas faire part de ses souhaits par écrit. Après, vous me direz, encore faut-il, parce que j'imagine que l'écrit n'est pas encadré en disant le jour il m'arrive quelque chose, ah les ouais. gars, voilà, lisez ouais. tout ça. C'est-à-dire ouais. que très souvent, on découvre ça dans les petits papiers. Mais c'est vrai qu'idéalement, je le redis, il faudrait dire à votre conjoint, à vos enfants, aux membres de votre famille, bah voilà, s'il m'arrive telle ou telle bricole, bah il faudrait m'enterrer à tel endroit. Et voici les conditions dans lesquelles ça peut se faire.
Mais la question est vraiment fondamentale, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il peut y avoir des conflits familiaux à cause de ça. Quand vous êtes mort, que dit la loi sur la personne qui doit décider de ça?
C'est c'est la personne, entre guillemets, j'allais dire, qui est la plus proche.
C'est votre femme ou vos enfants?
Voilà, le premier réflexe étant de considérer que ce que va dire votre femme va être pris en considération en tout premier lieu. Et dans ce type de litige, on a tout vu, et en particulier pour les personnes de notre communauté. C'est posé d'abord une première question, à savoir le lieu de l'enterrement.
Donc en France ou au bled?
Ben voilà, donc c'est vrai que en grande majorité, on entend dire, bon, s'il m'arrive quoi que ce soit, j'aimerais qu'on rapatrie mon corps au pays. Enfin, j'ai dit au pays des parents, au pays d'origine. Mais quand vous êtes né sur le territoire français, quand vous avez vécu toute votre vie en France, maintenant j'entends très souvent dire le fait d'être enterré dans un carré musulman sur le territoire français, ça devient quasi normal.
La norme.
Voilà, il y a quelques années, c'était inimaginable. Donc maintenant, ça devient la norme. Mais pourquoi j'ai voulu traiter de ce sujet? Parce qu'il y a une décision qui a été rendue, on a passé un cran au-dessus, c'est une décision qui a été rendue par la Cour de cassation, donc c'est la plus haute juridiction en France, et qui concerne un citoyen marocain. Donc c'est une personne qui est née sur le territoire français, mais qui a toujours conservé sa nationalité marocaine, un premier mariage, deux enfants, il divorce, un deuxième mariage, et puis le type décède. Et au moment de son décès, contre toute attente, en tout cas mauvaise surprise concernant les membres de sa famille, son épouse dit que l'intéressé aurait voulu être incinéré. Alors, on sait que chez les musulmans, c'est haram, comme on dit, donc on n'incinère pas les corps. Donc, véritable litige entre l'épouse et la maman du défunt et ses frères et sœurs. Il y a une procédure pour ça, c'est-à-dire que quand il y a un litige sur le choix des conditions d'enterrement, eh ben vous pouvez saisir un tribunal qui est le tribunal d'instance du lieu du décès. Le tribunal d'instance du lieu du décès donc va rendre une décision dans un délai de 24 heures. Là, en l'occurrence, le tribunal d'instance a donné raison donc à la dernière épouse de monsieur en disant. On nous dit que l'intéressé veut être incinéré, donc on va dans ce sens-là. La famille interjette appel.
Sachant que chez les musulmans, il faut être enterré dans les 24 heures, donc il y a intérêt à rentrer dans les délais.
Alors, c'est ce qui fait aussi que ce sont des procédures, encore une fois, au niveau timing. Et moi, sincèrement, de mes 20 ans de carrière, je ne l'ai fait qu'une seule fois. Donc, ce n'est pas évidemment très souvent qu'on est amené à traiter ce genre de dossier. Si vous n'êtes pas satisfait par la décision du tribunal d'instance, vous pouvez interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel qui doit statuer le jour même, donc pour dire qui a tort, qui a raison. Donc en l'occurrence, le tribunal d'instance, la cour d'appel et ensuite la cour de cassation ont tous donné raison à l'épouse au motif que ils auraient eu des informations et notamment des témoignages d'amis, de voisins, disant que ce monsieur aurait souhaité se faire incinérer. Alors, bon, moi je connais pas le fond du dossier, j'ai trouvé ça assez particulier, parce que le type est décédé relativement jeune, il a 42-43 ans. Je connais personne à 42-43 ans qui passe son temps à dire à ses voisins ou...
Oui, voilà quelles sont mes dernières volontés.
C'est particulier, donc il faut savoir que les autorités marocaines sont intervenues pour dire que c'était pas possible de procéder de la sorte. Bon, manifestement, elles n'ont pas été écoutées. Donc il faut savoir que ce sont des problèmes qui vont se poser de plus en plus. Encore une fois, j'ai connu cette période-là où on considérait qu'il fallait être enterré au pays. Il n'y avait pas de difficulté. Ensuite, enterré sur le territoire français, il y avait quand même des litiges entre certains membres de la famille qui disaient pas en France, quand bien même ce serait au sein d'un carré musulman, mais au pays. Et maintenant, il y a des questions qui concernent voilà l'incinération. Donc c'est vrai que ce sont des questions qui sont terribles, qui sont douloureuses. Faut pas oublier que engager des procédures judiciaires dans ce contexte-là, et je vous dis, moi je l'ai fait une fois, c'est d'un compliqué pas possible, émotionnellement parlant. Donc le conseil entre guillemets qu'on peut donner, c'est de mettre, alors c'est terrible de dire ça, mais de mettre éventuellement par écrit ce que vous souhaitez, parce que
alors si vous le mettez par écrit, que vous le déposez chez le notaire, et que le notaire intervient au moment où vous disparaissez, est-ce qu'il est en mesure, avec ce document, d'imposer ce que vous voulez? Voilà, donc là-dessus, c'est, on ne peut pas le contester, c'est ce qui sera appliqué.
Voilà. À partir du moment où vous avez un écrit de l'intéressé, il n'y a pas de difficulté, on va appliquer ça, que
d'accord,
ça aille
voilà.
Dans le sens de
la mère
ou pas, peu importe, voilà, on va appliquer ça. Quand vous n'avez pas ce genre de d'écrit explicite, eh ben il y a une enquête qui va être menée. On va rechercher des indices et chacun va venir à la barre pour dire écoutez, il m'a toujours dit ça, ou j'ai un voisin qui vient me dire ça. Donc on va verser des attestations et c'est terrible encore une fois pour ce jeune homme, parce que je le redis, c'est une personne qui est née sur le territoire français. Qui n'a jamais sollicité la nationalité française alors qu'il aurait pu le faire il y a des siècles. Donc c'est vrai que la famille s'est basée sur ça en disant, alors certes il est né en France, mais nous on considère qu'il est entre guillemets musulman à plein temps du début jusqu'à la fin de sa vie, et puis l'incinération est de facto impossible. Sauf que, et ça il faut qu'on le sache, hein, c'est la plus haute juridiction en France qui a considéré qu'à partir du moment où on n'avait pas d'éléments explicites pour dire je veux être enterré dans telle ou telle condition, eh ben on va s'adresser à votre dernière compagne, on va considérer que c'est la dernière épouse en l'occurrence, donc qui est le plus à même de donner une information complète.
Le jugement de la Cour de cassation fait jurisprudence?
Non, il fait pas jurisprudence en la matière, et on a beaucoup de décisions qui ont déjà été rendues dans ce sens-là. Ce qui l'importance de la décision de la Cour de cassation, c'est quoi? C'est que si demain vous avez un litige de cette nature, j'allais presque dire inutile d'aller à nouveau devant la Cour de cassation, puisque c'est cette décision qui est maintenant dans l'esprit de tous les magistrats. Et je le redis, alors c'est assez terrible hein, quand on est dans ce genre de situation. Donc pour éviter, encore une fois, autant que faire se peut, ce genre de litige et de difficultés rajoutées à la douleur, il faudrait évidemment prévoir ce genre de choses. Et là, je me dis pourquoi je parle de ce sujet, c'est peut-être parce que j'ai 50 ans aussi. Vous voyez, si vous m'aviez invité il y a 15 ans à parler d'un sujet pareil, j'aurais dit, attendez, c'est trop morbide. Et je crois que là, j'y fais aussi. Tout en sachant que ce jeune homme est mort d'une piqûre, je crois, de frelon, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est pas la mort la plus, c'est pas la mort la plus glorieuse du monde, hein. C'est-à-dire que le type a fait une allergie par rapport à ça. Oui, non, ne riez pas.
Ah ben moi je ris pas.
Mais si, vous souriez.
Non, alors c'est pas vrai, je suis en train de vous dire... Non, pas du tout. Il y a plein de choses qui me font rire, Maître Serran. Même, il vous arrive de me faire rire,
mais là je rigole pas.
Ah bon, d'accord. Et alors, attendez, si c'est un deuxième mariage, par exemple, vous avez la deuxième épouse qui est face à des enfants d'un premier mariage. Désolé de dire ça, mais qui c'est qui l'emporte sur la décision?
Vous voyez, je vous disais que de ma vie, j'ai traité un seul dossier de cette nature, et c'est un litige, effectivement, entre les enfants d'un second mariage. Et on va tenir compte.
Ça me semblait ressembler à ça. Enfin, voilà. Un peu le conflit de...
Non, mais c'est complètement ça. Mais on va tenir compte, encore une fois, vraiment des déclaration de la dernière personne qui a vécu avec
C'est la dernière épouse,
donc
le dernier mot.
Savoir. Donc c'est vrai que c'est terrible, et puis parfois la dernière épouse est une épouse qui avec l'intéressé depuis très peu de temps. Donc c'est là où on se dit ça peut effectivement faire mal, et peut-être même avec l'intéressé juste pour son argent, et qui peut-être même se réjouit du décès de...
Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe absolument
d'accord,
pas.
D'accord. Non, ça n'existe pas. Bon, en tout cas, donc tout ça pour dire quoi? C'est pas le sujet le plus joyeux du monde, mais il faut y penser, mon cher Philippe. Pensez-y fortement.
Pensez-y, donc, écrivez.
Il n'y a pas mieux que ça.
Vos dernières volontés, confiez-le à quelqu'un de confiance.
Ouais, mais pas à la seconde épouse, hein. Quelqu'un de confiance. Ouais. Enfin, ni à la première, d'ailleurs. ne le confiez pas à votre épouse.
Bon, parfois, vous savez, on fait des erreurs et on les regrette après.
C'est vrai.
Allez, 01-53-48-3000, si vous voulez poser toutes les questions à Maître Serran, qui est d'excellente humeur, vous pouvez le constater aujourd'hui. Il a l'œil vif, les neurones affûtés.
0153 48. Hein? J'étais chez le coiffeur. Est-ce que vous signaler?
Oui, il faut le dire. Voilà. Mais ça passe pas à la radio. C'est comme votre joue, vous voyez.
C'est comme la joue.
Vous voyez? Donc, allez, 0153 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors c'est vrai que Maître Serran a un peu plombé l'ambiance ce matin avec ses histoires d'enterrement. Faites-nous part de vos dernières recommandations, volontés.
Mais de toute manière, il faut en parler de ce genre de sujet. Bon, alors moi je ne suis pas concerné, je ne vous l'ai jamais dit.
Vrai. Ouais, voilà, Highlander.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi je suis immortel.
D'accord.
Voilà. J'ai mal aux dents, mais je ne meurs pas.
D'accord.
Voilà.
Mais au cas où.
Au cas où quoi? Je ne meurs pas.
Bon, d'accord.
Comment ça, au cas où?
Non, qu'on sache.
C'est une vraie question.
Qu'on s'organise.
Ouais, je me suis posé la question. Vraiment, ouais, non, mais ce serait malheureux de mourir comme ça, vite fait, là, en tombant de l'escalier. Mais c'est une question qui ne me taraudait pas il y a quelques années. Je me disais, si demain il m'arrivait un truc, direct le pays, hein, un vol direct.
Razaouet.
Razaouet, le petit cimetière de Razaouet. Bah parce qu'on a des membres de sa famille et puis j'ai mon papa là-bas, là, Rahmo. Et plus je prends de l'âge et plus je me dis quand même quoi, à Razaouet, enfin ou ailleurs, mais alors je sais pas. Franchement je.
Ouais, c'est moins Razaouet.
Non. Ouais, mais c'est ce que je me dis de toute manière. Après, voilà quoi. Que tu sois à Razaouet ou en Chine.
Oh, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus facile d'aller à Razaouet qu'aller en Chine.
Ouais, en Chine on peut te manger en plus. C'est pas là-bas.
Non,
faut pas dire ça.
Ça va pas, c'est raciste.
Ouais, c'est raciste.
Ah ouais. Ouais. Tiens, Malika est avec nous au 01 53 48 3000. Malika, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour Maître Serran. Bonjour Philippe.
Bonjour Malika.
J'avais une question. En fait, j'ai un litige avec mon avocat. Et du coup, j'ai saisi le bâtonnier. J'ai toujours pas de nouvelles en fait.
Alors, il y a des règles très précises en la matière, hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le bâtonnier a un délai de 4 mois pour apporter une réponse.
D'accord. Mais justement, ça fait plus de 4 mois.
Alors, il y a toujours la possibilité pour le bâtonnier, comme on dit, de proroger, c'est-à-dire de prendre un délai supplémentaire, mais le bâtonnier doit vous informer en disant, écoutez, les 4 mois sont passés, je vous signale que le dossier est toujours en cours. Donc, si vous n'avez pas de retour particulier, dans ce cas-là, faut pas hésiter éventuellement à relancer les services du bâtonnat. Mais sinon, c'est voilà, en règle générale, ils sont assez diligents. Et puis, je vous dis, dans les 4 mois, il y a un retour du service de l'ordre.
Normalement, que j'attends, donc ça fait plus de 4 mois.
Ça fait plus de 4 mois.
Non, bah écoutez, si vraiment vous avez rien reçu pour indiquer que le délai va être prolongé, n'hésitez pas à les contacter. Mais sincèrement, parce que souvent on dit oui, mais bon, le bâtonnier est avocat et donc entre avocats, il se passera rien. Donc c'est faux, hein, c'est quand même suivi à la lettre par les ordres et en particulier par les bâtonniers. Donc vous n'hésitez pas à leur passer un petit coup de fil et puis vous verrez, vous donnez l'information sans problème.
J'ai un litige contre lui parce que en fait il m'a pris beaucoup d'argent alors que j'avais droit à une aide juridictionnelle.
Alors,
c'est pour ça que j'ai porté plainte.
Voilà. Ouais, mais alors pareil, c'est-à-dire qu'on est parfois confronté à ça, c'est-à-dire que de deux choses l'une, soit vous allez chez votre avocat en disant écoutez, on va travailler dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Et puis vous avez éventuellement une décision.
Mais il veut plus me parler, monsieur.
Alors juste pour vous expliquer comment ça se passe, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une décision du service de l'aide juridictionnelle qui dit que c'est Maître Truc qui doit gérer votre dossier, il ne peut pas se comporter comme si c'était un dossier entre guillemets lambda et vous demander des honoraires. Donc la question est de savoir est-ce que vous aviez déjà une décision au titre de l'aide juridictionnelle ou pas. Parce que si vous avez cette décision, c'est pas possible. Après,
oui, j'avais cette décision,
ah non, bah alors donc dans ce cas-là, c'est pas possible.
Alors lui, il m'a dit oui, mais ça rentre pas dans le cadre d'un divorce. En fait, c'était pour un dossier de divorce.
Ouais.
Et il m'a dit oui, ça rentre pas dans le cadre d'un divorce. J'ai dit mais pardon, mais j'ai jamais entendu ça.
Concrètement, il y a une décision de l'ordre des avocats qui dit que Maître Truc est désigné au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure de divorce. Normalement, ça marche comme ça. C'est une décision de cette nature que vous avez?
Oui, c'est ça.
Eh ben donc il y a pas de difficulté. Après, si vous allez le voir, j'ai n'importe quoi pour un problème d'assurance, évidemment, ça concerne pas l'aide juridictionnelle qui parle du divorce. Mais si c'est pour le divorce, non, il peut pas zapper cette décision.
Justement,
moi j'ai une question, Malika. La première fois que vous êtes allée le voir, votre avocat, vous avez évoqué cette question d'aide juridictionnelle ou pas du tout?
Oui, justement. Quand,
dès le départ.
Justement, quand j'ai reçu la désignation, l'aide juridictionnelle, pardon, ils m'ont désigné cet avocat en fait.
Non, mais alors donc
il y a désigné cet avocat.
Alors il n'y a pas de, litige possible. La seule option pour l'avocat aurait éventuellement pu être de dire non, écoutez, laissez tomber, ça m'intéresse pas pour une raison X ou Y. Hein. Un avocat a le droit de renoncer pour tel ou tel dossier à l'aide juridictionnelle, mais vous dire je gère le dossier en dehors de l'aide juridictionnelle, c'est pas possible.
Eh ben justement, il m'a dit que l'aide juridictionnelle n'a pas été acceptée par rapport à lui. Mais il m'a baratiné, en fait, monsieur.
De toute manière, c'est simple à savoir, ça. C'est-à-dire que vous avez une décision avec le nom du confrère sur le document.
Oui.
Bon, vous avez une copie, l'avocat reçoit également une copie de son côté.
Exactement.
Donc, j'ai du mal à comprendre le raisonnement du confrère. Maintenant, c'est de l'argent que vous avez versé à l'avocat ou pas?
Exactement, j'ai versé en chèque et en espèces.
D'accord, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas dit, non, mais attendez, c'est l'aide juridictionnelle, je vais peut-être me rapprocher éventuellement de l'ordre des avocats pour essayer de comprendre?
Eh ben non, justement, au début, je pensais qu'il disait vrai, bon. Et en fin de compte, non.
Parce qu'après, y a aussi une autre option, une autre hypothèse, c'est-à-dire que vous avez parfois des personnes qui peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle, même avec le nom de l'avocat, Maître Truc, désigné au titre.
En fait, j'étais à 55%, par contre.
Ben, c'est pas pareil, alors. Mais 55%, vous avez bien compris que, voilà, pour expliquer à nos auditeurs, on peut avoir l'aide juridictionnelle à 100%, vous n'avez rien à débourser. Mais à 55%, il y a une partie.
Donc, j'ai déboursé normalement, je devais débourser la moitié, vous êtes d'accord avec moi?
55%, voilà, on est dans ce ratio, mais ça veut dire que vous devez régler une partie et une partie sera prise en charge par l'État, mais cette partie doit être déterminée par le confrère. Pardon?
Au début, j'ai réglé 750 euros.
Ouais.
Et après, il m'a demandé 400 euros.
Ouais, mais après, madame, je dis n'importe quoi, mais si le confrère, lui, fixe des montants pour sa procédure de divorce, alors bon, encore une fois, faites pas attention au montant, j'ai n'importe quoi, à 2000 euros ou 2500 euros, ça peut correspondre à la décision qui a été rendue.
Je sais pas.
Bah si, je sais. Mais si mon divorce est à 100 euros, vous bénéficiez de 50% au titre de l'aide juridictionnelle. Il faut quand même verser au confrère 50 euros sur le.
Ouais, mais dans ces cas-là, il y a un devis, il y a une facture.
Ah non, bien sûr. Non, mais après, voilà, c'est pas.
Justement, monsieur, il m'a pas fait ni de devis.
Ah non, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Parce que le fait que le confrère vous demande de participer financièrement, il n'y a rien de choquant et c'est juste normal. C'est la résultante de la décision.
Mais
maintenant.
Il n'y a pas eu de facture.
Ah bah voilà. Non, mais ça, c'est autre chose. Après,
honoraire, en fait. Voilà. Rien donné en fait.
Alors après,
ce qui a donné un reçu comme quoi j'avais versé les 400 euros parce que j'ai insisté là-dessus. J'ai dit non monsieur, par contre vous me donnez un reçu.
Bien sûr, ouais.
400 euros en espèces comme ça et je pars et.
Non mais ça c'est obligatoire. C'est légitime mais c'est obligatoire de.
Il m'a donné juste un
d'accord.
reçu. Il n'y a pas de facture, il n'y a pas d'honoraire.
Mais indépendamment de ça, voilà, pour bien comprendre, est-ce qu'il vous a dit? Écoutez, madame, chez moi, le divorce est à hauteur de 2000 euros, 3000 euros. Est-ce que vous, voilà, vous connaissez? Parce que quand je vous dis qu'il y a un pourcentage, c'est le pourcentage, mais sur un montant qui est déterminé.
Non, il m'a pas dit ça.
Alors ça, c'est important. Ça, c'est important. Mais je le redis, l'aide juridictionnelle partielle, lorsque vous devez régler une partie. Je vais juste terminer, sinon ça.
Ouh là là, je crois que Malika, là, vous avez énervé Maître Serran.
Non, pas du tout. Non. Ce qui est important, c'est que. L'aide juridictionnelle partielle, pour que les auditeurs comprennent, il y a une partie qui est prise en charge par l'État, il y a une partie qui vient de votre poche. Donc ça, il n'y a pas de litige là-dessus et c'est normal. Ce qui est important, c'est qu'au moment où vous allez voir votre avocat, à l'aide juridictionnelle partielle ou pas, mais au moment où vous allez voir votre avocat, il doit vous dire, chez moi, le divorce est de temps. Et puis, vous réglez, si c'est 50%, vous saurez très précisément qu'il y a la moitié à régler et qui viendra de votre poche. Donc, ce qui est important, c'est que le confrère puisse vous dire... la totalité de la procédure va vous coûter tant.
Mais justement, il m'a rien dit de tout ça.
Ah bah là, ça pose problème. Alors, il y a deux choses. Ça pose problème du côté de l'avocat, c'est certain. Mais sincèrement, c'est quand même assez particulier d'engager une procédure de divorce sans savoir sur quel pied danser. voyez, vous, quand vous allez acheter n'importe quel bien, vous regardez quand même le prix. Arriver chez l'avocat et se dire, tiens, il m'a pas préciser combien ça pourrait me coûter, faut jamais rester dans le doute. Il faut la poser, la question, quand c'est comme ça.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Alors, en principe, encore une fois, en principe, c'est aux professionnels du droit de dire, écoutez, chez moi, ça coûte tant et ça se passe comme ça. Mais s'il y a une lacune de sa part, dans ce cas-là, faut pas hésiter à poser la question.
D'accord.
Bon, en tout cas, relancez l'ordre des avocats.
Ok, il y a... C'est très gentil.
Merci Malika.
Merci à vous, Malika.
Alors Anis est avec nous au 01 53 48 3000. Anis, bonjour et bienvenue.
Bonjour Maître Serran, j'ai une question à poser. Combien d'années peut durer un contrôle judiciaire?
Alors tout dépend évidemment de la nature des affaires, c'est-à-dire que tant que l'instruction, comme on dit, n'est pas terminée, tant que l'enquête, pour qu'on comprenne, n'est pas finie, vous pouvez, en tout cas l'intéressé peut rester placé sous contrôle judiciaire.
Excusez-moi.
Pourquoi vous... Alors, c'est vous qui êtes concerné?
Oui.
C'est un contrôle judiciaire qui dure depuis longtemps?
Depuis 6 ans.
Ouais. Et là, la procédure est toujours en cours?
Non, l'avocate me dit que le dossier est fermé, mais il n'y a rien.
Alors, fermé, il y a deux choses. C'est-à-dire, fermé au niveau de l'instruction, c'est-à-dire l'enquête. J'imagine que vous avez dû avoir affaire peut-être à un juge qui porte le nom de juge d'instruction.
Tout à fait.
Donc, ça peut s'arrêter à ce niveau-là. Et ensuite, l'affaire va passer en audience de jugement. Mais dans les contrôles judiciaires qui sont très longs comme ça, rien n'interdit à votre avocat de saisir. Alors là, manifestement, l'affaire est clôturée. Donc, a priori, pour vous, c'est terminé. Mais pour ceux qui nous écoutent, quand on est placé sous contrôle judiciaire, à tout moment, l'avocat peut déposer une demande auprès du magistrat pour solliciter une modification du contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, puisque la situation des uns et des autres, et dans le cadre d'une enquête, ça peut évidemment évoluer. Donc quand c'est comme ça, faut pas hésiter, via votre avocat, à vous rapprocher donc du magistrat pour demander une modification du contrôle judiciaire. D'accord. Et puis le magistrat va examiner ça.
D'accord, parce que ça fait 6 ans et je pointe quand même de tous les mois. Hein.
Ah bah alors bon, on connaît pas le fond de votre affaire, mais c'est vrai que c'est sur 6 années pointé très régulièrement, ça peut être difficile à vivre. Mais je le redis, le contrôle judiciaire n'est jamais gravé dans le marbre.
D'accord,
le magistrat va rendre une décision à un instant T en fonction des déclarations des uns et des autres. Est-ce que vous travaillez ou pas en fonction de la situation familiale? Mais sur 6 ans, un parcours, eh ben, ça peut changer et évoluer. Donc, quand c'est comme ça, faut pas hésiter à se rapprocher via votre avocat ou devant le magistrat.
D'accord. Et le délai veut rien dire. Ça peut être,
Non. Encore une fois, je peux pas vous répondre au niveau du délai. Il y a pas un texte qui dit que le contrôle judiciaire doit durer telle ou telle période. Encore une fois, ça va dépendre beaucoup de l'importance ou de la gravité du dossier qui est traité par le magistrat.
D'accord, ok. Donc, il faut voir avec l'avocat qui essaye un peu de savoir...
Ah bah, en principe, c'est le premier interlocuteur pour vous, monsieur, c'est pas le magistrat, c'est votre avocat. Et le rôle de l'avocat, c'est aussi d'organiser, entre guillemets, on va dire, des tête-à-tête, comme ça, pour essayer de prendre la température avec le juge. D'accord. Ça fait aussi partie de notre boulot, vous savez, hein, d'aller toquer à la porte des magistrats pour dire, bon, je viens pour tel dossier, vous en pensez quoi, qu'est-ce qu'on fait, voilà ce que souhaiterait mon client. Enfin, bon, après, ça, c'est le boulot de l'avocat, hein.
D'accord, donc faut que l'avocat peut taper à la porte pour dire, bah alors, qu'est-ce qu'il va mettre ce dossier?
Si vous me dites que c'est sur une période de 6 ans, l'avocat aurait dû déjà tapoter à la porte du magistrat il y a bien longtemps. Maintenant, sous réserve évidemment que vos conditions ont pu changer. Vous voyez, je suis pas en train de dire que si l'avocat avait été voir le juge, le contrôle judiciaire est assoupli ou terminé. Après, tout dépend de la situation, mais ça fait partie des missions, comme on dit, de l'avocat.
D'accord, ok. Pourtant, c'est pas une grosse affaire, c'est pas quelque chose de maroboulant, c'est pas, j'ai même envie de dire quelque chose, c'est pas quelque chose de grave, mais.
Ouais.
Les gens, ça me paraît énormément.
Une instruction, alors, de manière objective, encore une fois, voilà, hein, je connais pas votre dossier, mais des instructions sur une période de 6 ans quand on considère que la personne doit être placée sous contrôle judiciaire, bon, enfin, vous avez pas volé une mobylette, quoi. Ouais, le terme mobylette est un peu désuet, d'ailleurs.
Je trouve que mobylette, ça date un peu.
Ouais, ça date un peu.
Mais bon.
Ouais, ça sent le sapin. C'est mon sujet de ce matin, là, ça me fait peur.
Ouais,
j'aurais pas dû parler
pas
de ça.
Pas scooter.
Scooter, ouais. Ouais. Donc voilà, après c'est aussi en fonction de ça. Encore une fois, bon, je connais pas votre dossier, mais bon, une instruction qui dure 6 ans, c'est quand même un truc un peu un petit peu lourd, non?
Ouais.
Mais encore une fois, voilà, hein, c'est pas au particulier qui a un avocat d'aller faire ces démarches là, c'est à votre avocat de faire le nécessaire.
Mais le délai, en tout cas, ne veut rien dire. Ça peut aboutir à...
Non. Encore une fois, si votre question, c'est dire, attendez, ça fait 6 ans, comme dirait, est-ce que c'est normal ou pas? Je le redis. Il n'y a pas de règle en la matière. Tout va dépendre de l'importance du dossier. Et puis, pareil, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées ou pas? Donc, voilà, l'instruction, en tout cas, le timing peut varier si on est tout seul ou si on est 15 dans une affaire.
Voir la SCUP, on me dit, 6 ans, c'est énorme, qu'ils n'ont jamais vu ça, même eux-mêmes, quoi. Mais même, ils sont étonnés, quoi.
Vraiment, ce serait pas sérieux de vous dire là comme ça à la suite de notre échange, tiens, c'est important ou pas. J'en ai aucune idée. Il faudrait connaître le fond du dossier.
Ce que vous pouvez faire, Anis, Maître Serran vous communique son adresse mail parce qu'il est bon. Allez-y.
Ouais, voilà, et n'hésitez pas. Donc Maître sans accent circonflexe sur le i. Hein, donc Maître.Serran, S-E-R-H-A-N-E @gmail.com. Maître.Serran @gmail.com.
Voilà, c'est plus simple pour parler d'un dossier et le consulter. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez communiquer, Maître Serran, s'il vous plaît, votre numéro de téléphone.
Aussi, 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Merci Anis pour votre question. Si vous voulez interroger Maître Serran, vous composez le 01 53 48 3000. Voilà, il y a de la place, vous pouvez y aller. Les derniers arrivés peuvent passer. 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Maître Serran, on va à Toulouse. Djaloul vous appelle au 01 53 48 3000. Bonjour Djaloul et bienvenue.
Bonjour. Ouais. C'est une question pour l'avocat. Je suis en contrat à la mairie depuis 2016, juillet 2016 en fait.
Alors, pardonnez-moi, j'ai pas entendu. Vous êtes, pardon?
En contrat.
En contrat, voilà, d'accord.
En contrat, un CDD.
Ouais, un CDD, ouais.
Ouais, depuis juillet 2016.
Ouais.
Et bon, je remplis tous les critères, hein, nationalité française, aucune mention au B2. Donc, tout pour passer stagiaire le plus vite possible. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai des contrats de 3 mois renouvelables depuis. Il y a eu 2 contrats de 1 mois, en fait. Et après, ça a été 3 mois, mais j'ai pas eu de carence au milieu. Je me suis jamais arrêté. On m'a jamais arrêté. On m'a fait que me continuer. Donc, je suis au 15e contrat. Donc, je voulais savoir.
Vous travaillez dans quel domaine?
Éboueur, en fait, pour la ville.
D'accord. Et quand vous discutez de ça avec eux,
J'avais jamais discuté avec eux parce que, si vous voulez, comme quand on remplace, en fait, des personnes qui sont en longue maladie et tout, ce qu'il y a, c'est que on m'a dit que voilà, normalement il y avait un certain laps de temps pour les contrats, mais qu'il fallait pas en dépasser au niveau de la loi. Donc on m'a pas exactement précisé c'était quoi, et je suis quand même au 15e et je vais rentrer dans le 16e là, en fait.
Il faudrait vérifier quand même, parce qu'évidemment tout ça va dépendre en dehors du principe législatif, c'est-à-dire en dehors de la loi. Il y a évidemment toute une série de conventions collectives qui d'une activité à une autre.
Alors, attendez, parce que vous dites que vous êtes en contrat avec la mairie de Toulouse, vous êtes directement en contrat avec la mairie de Toulouse ou c'est un prestataire, Djaloul?
Non, c'est directement Toulouse Métropole, directement.
D'accord. C'est quoi? Mais c'est la fonction publique territoriale, comment?
Parce que la fonction publique territoriale, oui. C'est, parce qu'en fait, maintenant, vous avez commencé dans toutes les grandes villes maintenant, c'est passé en métropole partout, que ce soit, Strasbourg Métropole ou Lille Métropole ou Toulouse Métropole. C'est des collectivités territoriales, en fait.
C'est-à-dire que quand vous discutez avec eux, c'est-à-dire concrètement, à leur niveau, ça se passe quoi? Il y a un concours qui doit être passé? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Non, pas du tout. Quand on rentre, en fait, en catégorie C, au plus bas niveau d'échelle, plusieurs personnes peuvent rentrer comme étudiant. Et dès qu'en fait, il y a un poste de stagiaire qui s'ouvre, pour être après directement titulaire, après les 1 an de stagiarisation, après, voilà, on est titulaire. On a le statut de fonctionnaire. Mais le truc qu'il y a, c'est que ça fait trop de contrats, moi, je trouve. Et on m'a dit qu'en France, il y avait une limite par rapport à ça, à pas dépasser.
Alors, sur le principe, sincèrement, oui, il y a une limite. Maintenant, je le redis, il n'y a pas un texte de loi qui dit que pour toutes les activités, la limite est ou serait la même. Donc, il faudrait quand même s'intéresser plus sérieusement au texte qui régit votre activité. Maintenant, si vous me dites que vous en êtes à une quinzaine de contrats, je le redis, hein, j'ai pas le texte sous les yeux, ça me semble moi particulièrement exagéré en la matière. Donc, je vais simplement vous répondre. Et encore une fois, pardon, hein, je connais pas les textes qui régissent votre activité par cœur, mais une fois que l'information est prise, vous avez toujours la possibilité, alors d'abord de vous rapprocher de l'intéressé pour dire que vous demandez ce qu'on appelle en droit une requalification du contrat, en gros pour éviter que ce soit des CDD à tout va. Ça se passe bien, ben y a pas de difficulté. Si évidemment on vous trouve, en tout cas on vous cherche des poux dans la tête et puis on vous dégage par rapport à cette demande, vous pourrez faire le lien directement. C'est pour ça que c'est important de pas simplement s'entretenir comme ça oralement, mais de confirmer l'échange, en tout cas la demande que vous avez pu formuler directement au responsable pour qu'il y ait une trace. Parce que si on vous met dehors, vous aurez au moins un motif à invoquer auprès de la juridiction. Et puis, si malgré la discussion, on vous dit bah c'est comme ça et pas autrement, sinon on vous invite gentiment à partir, il n'y a rien qui vous interdit d'engager une procédure contentieuse et de demander à un magistrat de requalifier votre contrat en contrat à durée indéterminée. Maintenant, je vous le redis, ce ne serait pas sérieux de ma part de vous donner une réponse précise concernant votre activité professionnelle, et d'ailleurs, quelle que soit l'activité professionnelle, évidemment, il faudrait prendre connaissance des textes qui régissent très précisément votre poste. Donc là, voilà, la réponse que je vous donne, c'est une réponse qui est assez large. Si vous considérez que c'est abusif, discussion avec l'employeur, si ça n'aboutit pas, discussion confirmée par un écrit, en tout cas toujours, et si ça n'aboutit pas, les magistrats sont là et on a beaucoup de requalifications de contrats en la matière.
Parce que ça fait quand même, voilà, depuis en juin, ça va, ouais, fin juin, ça va faire 3 ans sans arrêt, quoi. J'ai pas eu de...
Alors, encore une fois, vraiment, là, comme ça, spontanément, voilà, je considère qu'on est ou qu'on serait dans le cadre d'une situation abusive. Maintenant, je ne connais pas les textes qui régissent en tout cas votre poste et votre activité, donc je ne vais pas vous donner une réponse définitive, ce ne serait pas sérieux de ma part. Donc il faudrait vraiment retourner à la base et, comme disait un prof de droit, les textes, rien que les textes. Donc c'est seulement sur cette base-là qu'on peut ensuite se poser la question de savoir est-ce qu'ils sont dans une situation abusive ou pas.
D'accord.
Mais je le redis, vous savez, avant de qu'il y ait entre guillemets un potentiel litige, n'hésitez pas à leur poser la question et encore une fois, alors éventuellement par écrit, parce que si, pardon pour l'expression pas jolie, on vous dégage après avoir posé cette question-là, au moins vous aurez un motif sérieux à invoquer. Donc, mais un tête-à-tête sans témoin, sans trace et tout, vaut mieux éviter.
D'accord, donc un écrit officiel.
Ah oui, voilà, un écrit, lettre recommandée à R, vous gardez une copie évidemment de cet écrit pour faire part de votre situation et leur demander si tout ça est normal. Ensuite, bon, on va vous apporter une réponse et puis vous regarderez dans quel sens elle peut aller. Mais si vous avez l'impression qu'après la réception de ce courrier, on décide de vous mettre dehors, voilà, au moins vous aurez ça sous le coude et un magistrat pourrait comprendre que c'est à cause de ça et que de ça.
En gros, si on met le doigt dans la confiture, si vous me permettez l'expression, c'est ça.
Voilà.
Voilà, bon, ok.
Bon, mais l'expression est permise.
J'ai très bien compris, maître, et je vous remercie de votre réponse.
Merci à vous.
Ça a été un peu plus clair, et je vous souhaite une agréable journée.
Merci bien.
Merci, Djaloul. Alors, nous avons Saïda qui est avec nous. Saïda, bonjour et bienvenue.
Bonjour, maître.
Bonjour, Saïda.
Voilà, moi j'ai un problème. J'ai eu un accident, ça fait 3 ans. J'ai été renversée par une voiture, par une personne âgée. Elle avait 87 ans. Et depuis, cette femme, elle m'a gâché ma vie. Et l'assurance ne m'a rien donné pour l'instant. On m'a proposé 5 500 euros et j'ai refusé. Et jusqu'à maintenant, elle me fait pas de proposition, mon assurance, elle ne m'aide pas du tout. Alors, je ne sais plus quoi faire.
Alors, si vous me dites qu'il y a une proposition qui a été faite avec le montant que vous avez évoqué, qui est une proposition que vous considérez comme insuffisante, ne vous attendez pas à de nouvelles démarches de la part, alors soit de votre compagnie d'assurance, soit de la compagnie d'assurance de l'auteur de l'accident. C'est-à-dire que ils vont prendre acte que vous refusez, donc ça va s'arrêter là à leur niveau, à charge pour vous. Si vous considérez que c'est que ça ne répare pas, comme on dit, votre préjudice, à charge pour vous dans ce cas-là de les poursuivre devant devant une juridiction. Mais si vous me dites qu'une proposition a été faite, ils reviendront pas vers vous, hein. C'est terminé.
Comment ça se fait?
Encore une fois, voilà, je vous renverse et je vous propose 100 euros. Vous me dites, non, c'est pas suffisant. Bon.
Oui.
Vous voyez, donc oui, ils sont pas obligés de revenir vers vous et dire, écoutez, est-ce que 150, on peut discuter? Non, s'ils reviennent pas vers vous, ça signifie qu'eux vont rester sur leur proposition. Donc, vous l'acceptez ou vous la refusez. Mais si vous la refusez, à charge pour vous de dire, moi, je considère que ce montant est insuffisant, il ne répare pas mon préjudice. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une assignation devant un tribunal de grande instance et il va falloir, dans ce cas-là, poursuivre la compagnie d'assurance pour demander à être indemnisé à hauteur de votre préjudice. Mais là, vous me dites que ça fait quoi, 3 ans?
Oui.
Ouais, c'est un peu long quand même, 3 ans, parce que j'imagine que vous êtes rapproché de votre compagnie d'assurance après, non?
Oui, mais
ils vous disent quoi?
Mon assurance, elle m'a dit, on va essayer de négocier et tout. J'ai dit, mais vous négociez quoi? Moi, j'ai perdu mon travail, j'ai plus de travail, et depuis que j'ai eu cet accident, ça va pas du tout. Je suis tombée malade entre-temps, je sais plus quoi faire.
Non, parfois, les compagnies d'assurance finissent par être aussi pénibles que les parties adverses. Mais encore une fois, si vous avez l'impression que le dialogue ne se fait plus avec votre compagnie d'assurance ou que votre compagnie d'assurance, manifestement, ne vous soutient pas, à charge pour vous de vous rapprocher d'un confrère, puisqu'on est devant un tribunal de grande instance, l'avocat est obligatoire. Et puis, vous allez entrer, comme on dit, au contentieux. Alors bon, c'est un litige qui dure depuis 3 ans. Il faut savoir que devant un tribunal de grande instance, pareil, ça peut durer encore 2-3 ans. Donc, en règle générale, vous savez, il faut aller vite. La compagnie d'assurance fait une proposition. Vous l'acceptez, ça s'arrête là. Vous l'acceptez pas, faut engager la procédure tout de suite. Mais attendre 3 ans, ça me semble particulièrement long, parce que là, le procès que vous pourrez éventuellement engager va durer à peu près 2-3 ans. Hein. Alors, normalement, le rôle de la compagnie d'assurance étant de soutenir ses assurés,
même en
vous fournissant un avocat. Bon,
oui,
en principe.
Normalement. Mais ils font rien, je leur ai dit, alors dans ce cas-là, vous me fournirez un avocat. On m'a dit, non, on peut pas vous donner un avocat. J'ai dit, mais attendez, je paye mon assurance quand même. Vous êtes là pour m'aider.
Voilà, sur les contrats d'assurance, il y a toujours, en règle générale, une petite clause qui s'appelle défense recours. C'est la petite clause qui fait que les frais de votre avocat sont pris en charge tout ou partie par votre compagnie d'assurance. Mais là, faudrait, pardon pour le terme qui est pas joli, mais faudrait vous réveiller très vite. Hein. Faites attention, ne vous laissez pas balader par votre propre compagnie d'assurance ou par la compagnie d'assurance de la partie adverse. Selon moi, sincèrement, vous auriez déjà dû entamer une procédure contentieuse depuis déjà quelques temps. Hein. Donc, il vaut mieux éviter de perdre encore du temps. Et puis, si la compagnie d'assurance ne vous fournit pas d'avocat, alors ce sera à votre charge. Ou alors, vous êtes peut-être éligible, comme on dit, à l'aide juridictionnelle. Il faudra peut-être faire des démarches dans ce sens-là. Mais en règle générale, ce genre de litige, faut pas laisser traîner ça trop longtemps. Hein.
D'accord. Je peux vous appeler personnellement, maître?
Bien sûr, si vos propositions sont purement juridiques et judiciaires, il n'y a pas de difficulté.
Oui,
vous avez de quoi noter? Je vous donne mon numéro?
Oui, allez-y.
06 62
oui.
58 59 64.
58 59 64.
Voilà.
Je vous remercie, maître.
Merci à vous pour votre appel.
Merci. Merci, au revoir.
Merci Saïda. Vous pensiez à quoi comme type d'appel, Maître Serran?
Non, mais je sais pas, on peut m'appeler pour me dire, Maître Serran, vous avez une voix tellement douce à entendre.
Ah oui,
j'ai vu une de vos photos, vous êtes un type très beau et très sympathique.
Bon.
Pourrions-nous déjeuner comment ça, il n'y a pas de risque?
Aucun risque.
De quoi?
Vous avez 3 minutes ou 4 pour répondre à Jamel.
Bon, on va répondre à Jamel alors.
Jamel, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Jamel.
J'ai une question à poser à Maître Serran, s'il vous plaît. C'est,
tant qu'à faire, parce que si ça avait été à Philippe, hein, ouais. C'est bizarre quand même. Bon, allez, je vous écoute, Jamel.
J'ai à ma possession une carte d'invalidité de mon grand-père, Lahermo.
Oui.
C'est marqué de nationalité française.
Ouais.
Donc, je voudrais faire des recherches si je peux obtenir son certificat de nationalité. Quel est le chemin que vous pouvez me conseiller pour faire cette démarche?
Alors, vous pouvez tenter, c'est-à-dire que souvent on a ça et on considère que si le grand-père, l'arrière-grand-père, à un moment ou à un autre, a été français, en tout cas pour les Algériens, je le redis de facto, hein, sauf qu'il y avait deux catégories de français à l'époque, le vrai français, entre guillemets, de métropole et on va dire le sous-français, c'est-à-dire que vous aviez, c'était écrit français, mais on vous reconnaissait pas tous les droits qui pouvaient être liés à ça. Donc selon moi, votre grand-père, c'est plutôt la deuxième catégorie. Pour autant, il n'y a rien qui vous interdit de saisir le service de la nationalité de votre lieu de domicile. Donc, pour vous habitez sur le territoire français?
Non.
Non.
Je suis résident en Algérie.
D'accord. Alors, dans ce cas-là, pourquoi je posais la question? Parce que pour les personnes qui sont résidentes en Algérie, c'est le service de la nationalité française du tribunal de grande instance de Paris. Donc, le nouveau palais de justice, le service se trouve là-bas. Donc, il n'y a rien qui vous interdit d'envoyer un courrier avec la copie de ce document et de solliciter un certificat de nationalité française sur cette base-là. Selon moi, je vous le redis, c'est peu probable que vous obteniez gain de cause, mais quelle que soit la réponse, au moins elle sera motivée. C'est-à-dire que si on vous dit non, on va vous dire non parce que ceci ou cela. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse qui est apportée, vous aurez la possibilité de contester donc ce refus de certificat de nationalité française. Mais pour tous ceux qui habitent à l'étranger, donc c'est le service de la nationalité française, encore une fois, du tribunal de grande instance de Paris.
D'accord. Est-ce que je peux mandater, par exemple, un avocat pour cette démarche?
Ça fait partie des missions de l'avocat, bien sûr. L'avocat n'est pas obligatoire, faut le savoir. Mais bien évidemment, un confrère peut gérer cet aspect-là. La différence, c'est que vous le faites tout seul, ça vous coûte un timbre, et puis vous le faites avec un avocat, avec évidemment un travail un peu plus fourni, ça vous coûte des honoraires d'avocat. Mais bien évidemment, il n'y a pas de difficulté.
Donc vous m'avez dit un confrère ou bien vous par exemple?
Parce que ce serait quand même avoir la grosse tête que de se dire écoutez le venez me voir absolument, mais je vous le dis autrement, venez me voir absolument. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous pouvez.
D'accord.
Ça fait partie des domaines de compétences que je traite.
Et pour entrer en contact avec vous, il faut que je vous...
Vous avez pas écouté l'émission, j'ai donné mon numéro tout à l'heure. Ah bon? Non, vous m'appelez.
Ouais,
06 62 58 59 64, vous n'hésitez pas, vous m'appelez là.
Là, vous croyez qu'il a eu le temps de noter?
Non, alors, vous avez de quoi noter?
Oui, 62 58.
Vous voyez, vous bégayez, vous n'avez pas noté, vous essayez de retenir simplement. 06 62 58 oui. 59 64.
64.
Voilà.
Voilà. Eh bien, je vous remercie, Maître.
Merci à vous.
Apparemment, c'est moi qui ferme la boutique.
Ah! Alors ça, vous avez tout compris, Jamel. C'est vous qui fermez la boutique.
J'ai les clés, j'ai tout ce qu'il faut alors.
Voilà, il y avait du monde dans la salle d'attente, mais on ferme quand même la boutique. Maître Serran revient vendredi prochain. Jamel, merci, à bientôt.
Et merci beaucoup, bon courage à vous aussi.
Maître Serran, très très belle semaine.
Merci bien.
Ça va être long, une semaine sans vous. Hein.
C'est vrai. Hein.
Ouais, très 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 long. De toute façon, nous, on est là tout le week-end, donc restez branchés sur Beurre FM. Et dans un instant, à 11h, ce sera vos petites annonces que vous passerez en direct au 01 53 48 3000.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.